RMC entre les poteaux.
Adrien Aigouin.
Salut à tous, n'osez pas en parler ou alors en chuchotant en cachette dans l'oreille de son collègue à la machine à café régulièrement le matin. Est-ce que tu penses qu'on va faire le grand chelem? Eh bien, depuis samedi, cette victoire du 15 de France en Écosse, 36-17, on a décidé d'en parler ouvertement. On assume d'entre les poteaux à deux matchs de la fin du tournoi destination. Le grand chelem devient-il carrément une obligation pour ce 15 de France? Deux dernières marches à franchir, le Pays de Galles à Cardiff le 11 mars et le 19 mars, ce sera l'Angleterre au Stade de France. Les poteaux du jour, ils sont là. Alors lui, il a fait le grand chelem dans sa vie, déjà, ça c'est fait. Et puis en plus, il a passé le week-end à Édimbourg avec Jean-Luc Reichmann. Les deux rêves de sa vie sont accomplis. Denis Charvet, salut mon Denis, ça va?
Jean-Luc, c'est un ami, attention.
Oui, enfin, amoureux de rugby.
Écoute, on a vécu un grand moment, on va en parler, mais c'était exceptionnel. Ouais,
le responsable du rugby sur RMC, Jean-François Patureau. Salut Jeff.
Salut Adrien, bonjour à tous.
Notre correspondant à Bordeaux, Nicolas Paolo Orsi. Salut Nico.
Salut les gars, le grand chelem pour Jeff Patureau, c'est la tournée des bars, hein, normalement. Ah,
ouais. il a déjà commencé à Dublin. Dublin.
C'est comme ça, d'entre les poteaux, on s'attaque direct là.
Il n'y a pas de. Je pensais pas.
Il n'y a pas d'échauffement. Il n'y a pas d'échauffement.
Ah, bon, en frontal,
il
à la Grégal.
Il a fait un grand match.
Christophe Cessieux, qu'on embrasse, m'a pas briefé là-dessus, mon Christophe. Et puis Pierre-Laurent Gou, journaliste au Midi Olympique, le journal du rugby. Salut Pierre-Laurent.
Salut à tous.
Salut.
Petite séance de rattrapage, là, tout de suite, Écosse-France, c'était samedi sur RMC avec Wilfried Templier et un très grand Denis Charvet, le match Écosse-France.
La musique pop à fond dans les enceintes de Murrayfield, et là tout le monde sort, et les cornemuses sont là sur le terrain. Allez, Romain Tamak a le ballon dans les mains. Aujourd'hui,
ça
met
bon,
fin à 8 ans de disette, 8 ans que les Français n'ont pas gagné ici dans le tournoi destination. C'est parti, Romain Tamak donne le coup d'envoi. Ah, la bonne relance d'Antoine Dupont qui est passé. Attention,
il est passé.
Antoine Dupont, 30 mètres, 40 mètres, il est né sur la ligne. 40 maintenant, il cherche le soutien qui est le percé. Cyril Bailly à hauteur, oh, qui détruit les Écossais. Aura, c'est pas fini, faut jouer patiemment avec maintenant les avants.
Essai.
Quel essai des Français. Mais quel percé d'Antoine Dupont. Danty,
essai.
Ils vont renverser la fin de passe. Non, il n'est pas encore dans l'embut.
Si,
il n'est pas encore dans l'embut, Denis.
Denis qui
il
n'est
pas
marqué.
Encore dans l'embut.
Je l'ai vu.
Il dit essai à chaque fois avant qu'il essaie. Il ne faut pas faire ça à nos auditeurs, mon cher Denis.
Attention, Van der Merwe,
il a percé. Il arrive sur les 50. C'est Penaud qui va peut-être attraper. Il croise avec la hauteur. Les Écossais sur l'extérieur. Ça peut faire essai en avant de Stuart Hogg. Non, il n'est pas encore dans l'embut.
Si,
oh, l'occasion gâchée par les Écossais, heureusement. Attention, Penaud.
Penaud,
allez, il court, il a sprinté, essai. Terminé, troisième victoire en trois matchs pour l'équipe de France. Après l'Italie, après l'Irlande, au Stade de France, et bien ici à Murrayfield, les Français s'imposent 36-17.
Je l'ai vu.
Non, en plus, je l'ai vu, oui.
Merci Denis. Est-ce que tu crois qu'un jour Wilfried Templier va te mettre un énorme tampon pendant un match?
Mais figure-toi que
il avait
aplati, donc j'ai bien vu la.
Figure-toi que j'ai assisté à la scène et je vois Wilfried qui tape sur la table comme ça. Regarde Denis, il lui fait le regard noir.
Mais c'est ça la passion, c'est ça les matchs sur
RMC. La complicité.
On y est, les poteaux, on y est, les gars. On voulait pas aborder le sujet. Alors Jean-François Patureau nous dit depuis le début, non, faut pas trop en parler parce qu'en plus ça porte malheur, etc. Mais on assume. Le grand chelem avec ce que nous montre cette équipe, ce qu'elle nous a encore montré à Murrayfield dans des conditions encore différentes. Est-ce que ce grand chelem, à deux matchs de la fin du tournoi, Denis, je commence par toi, toi tu es chelemard déjà, est-ce que ça devient même une obligation? Avec tout ce que cette équipe nous montre, est-ce qu'on ne serait pas déçus, mais d'une façon extraordinaire si on ne faisait pas ce grand chelem cette année?
Oui, évidemment que l'attente est énorme parce que c'est la faute des Français, de l'équipe de France, tout simplement. Ils nous font rêver, ils nous régalent, le public est derrière, il y avait 10 000 personnes en Écosse, c'était incroyable dans le stade, on a l'impression d'être au Stade de France. Donc l'attente est énorme, mais en même temps j'ai envie de te dire, on va le faire, je vois pas comment on peut passer à côté, c'est ce qu'ils nous montrent match après match, ce qu'ils sont en train de construire sur cette flèche du temps chère à Fabien Galthié. C'est assez incroyable, c'est assez bluffant. Et franchement, samedi, moi, j'ai été bluffé par cette équipe de France, encore une fois, mais différemment. On va dire qu'aujourd'hui, on avait dit, est-ce qu'ils sont matures maintenant pour gagner ce genre de match?
Ils
progressent dans la maturité et dans la maîtrise de cette équipe qui, parfois, elle pouvait passer à travers avec un moment de flottement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ne paniquent pas, ils restent concentrés, même s'il y a un trou d'air, ils reprennent tout. Et puis, c'est une force incroyable qui se dégage cette équipe.
Pierre-Laurent Gou, au Midi Olympique, est-ce qu'on décide de mettre la pression au 15 de France, à Galthié, aux joueurs? Il y a deux ans, on se voyait faire le grand chelem, hein, je vous rappelle. Hein. Ça s'est bien mal terminé, mais c'était il y a deux ans.
Et on en parlait, on avait déjà du mal à en parler. C'est une vieille tradition rugbystique de pas avouer qu'on vise le titre. Je ne sais pas, Denis pourrait nous expliquer d'où ça vient. J'avoue que je ne sais pas. J'ai souvenir que Guy Noves, même après avoir gagné une demi-finale de Top 14, ne disait pas qu'il voulait jouer la finale au foot. Il y avait Giroud qui jouait le maintien tout le temps. Nous, au rugby, je dis Guy Noves, mais Bernard Laporte aussi en tant que sélectionneur. Et du coup, Fabien aussi a plus ou moins, on a l'impression, passé le mot. Et on ne vise pas le grand chelem, alors qu'il le vise depuis le début. Rappelez-vous, on en a parlé dans notre journal ce lundi, qu'à l'automne, pareil, on était déjà tous excités, nous, les suiveurs et les supporters, par le match France-Nouvelle-Zélande, et on nous avait fait croire qu'ils n'y pensaient pas, alors qu'ils pensaient qu'à ça.
Je sais pas d'où ça vient. Oui, mais c'est de la com. C'est-à-dire que si tu dis que c'est tu fais le grand chelem, tu te mets une pression qui n'est pas nécessaire. Après, tu sais, en ton fort intérieur, que tu veux le faire. Ouais. Et puis,
justement, je vais vous faire écouter des joueurs à qui on a posé la question. C'est assez étonnant. Et puis, Jeff, tu nous diras comment ça se passe, même en interne, dans le groupe. Est-ce que c'est vraiment calculé de la part de Galthié, d'Ibanez, peut-être de Bernard Laporte également, je ne sais pas. On écoute Grégory Aldrit, hier, dans le RMC Sport Show en direct. Question très simple, Grégory, est-ce que vous parlez entre vous du grand chelem?
Le tournoi, c'est magnifique, parce que là, on a l'impression d'avoir quasiment fini le tournoi, alors qu'en fait, il nous reste un match au Pays de Galles et une réception des Anglais, donc deux des plus gros matchs du tournoi. Là, l'objectif surtout, c'est de se concentrer sur ce match du Pays de Galles et essayer d'avoir toutes les cartes à main après pour la réception contre l'Angleterre. Mais non, je pense que déjà entre nous, on parle pas de grand chelem, on parle de gagner au Pays de Galles. Donc voilà, faire marche par marche, marche après marche et gravir petit à petit.
Jeff, en interne, comment on gère cette histoire là? Ce que dit Pierre-Laurent est intéressant.
Ouais, mais c'est vrai que c'est rigolo.
Pourquoi ils le disent pas, quoi?
Non, mais c'est vrai que c'est rigolo parce qu'à la compte d'après-match, Fabien Galthié, le sélectionneur, et Antoine Dupont, le capitaine, ne prononcent jamais le mot grand chelem. Les deux mots grand chelem, c'est un peu tabou, mais Pierre-Laurent le disait aussi. Au mois de novembre, tout le monde suivait avec attention la montée en puissance avec la finale, le point d'or, ce match contre la Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois, c'était non, on n'y pense pas, on prend les matchs les uns après les autres, match après match. Bref, le discours assez classique d'un sportif de haut niveau, mais c'est vrai qu'évidemment ils l'ont dans un coin de la tête, et surtout ils s'en cachent pas. C'est ce que disait Grégory Aldrit hier sur RMC, c'est qu'ils veulent gagner un titre, et si vous gagnez un titre, vous avez aussi une chance de faire un grand chelem.
Je pense quand même que la réflexion de Fabien et son staff, c'est plus dans le sens de se dire comment on peut battre telle équipe.
Oui,
à chaque fois de monter,
c'est
à dire que pour eux c'est presque inévitable qu'ils vont gagner tous les matchs. Et en ce moment, ils se font peur à tout le monde parce que justement, ils construisent leur victoire avec intelligence et en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir peur du Pays de Galles, mais on se dit qu'ils vont trouver la parade. Donc, ils s'adaptent à tous les systèmes de jeu, à toutes les stratégies, et c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de faiblesse, même s'il y a des coups de
mou. Même s'il y a des moments, tu disais, un peu plus difficiles, parce qu'il ne faut pas oublier que ce match contre l'Écosse, les Écossais ont un ballon en or que Stuart Hogg fait un en avant pour revenir et vraiment.
Les Écossais devant à la mi-temps.
Sauf que Gaël Ficou marque un essai décisif et le match bascule.
Mais c'est justement ça qui est intéressant.
Et puis on a un niveau en défense qui est quand même assez incroyable défensivement.
La défense est impressionnante. C'est mais c'est toute la question d'aujourd'hui, c'est de se dire oui, s'il y aurait 17-12 à la mi-temps pour l'Écosse,
comment ça se passe?
Moi, je suis sûr qu'on gagne. On gagnerait pas aussi facilement, mais on aurait trouvé la parade pour gagner parce qu'il y a tellement de qualité. Et puis on voit la différence du banc quand le banc français rentre par rapport au banc écossais.
Ces
finishers dont parlait Fabien Galthié, on voit
c'est plus des remplaçants.
On voit aujourd'hui la puissance. La puissance que ça apporte au collectif à la 60e minute. Donc voilà, il y a tout qui est calculé, tout qui est préparé, et les joueurs adhèrent totalement à ce système.
C'est pour ça, Denis, que je pense que ça sert à rien de les protéger et qu'on peut afficher. Ils peuvent afficher.
Ça, c'est mûr.
C'est jeune génération, j'ai l'impression que cette jeune génération, elle assume. J'ai souvenir qu'en 2018, notamment Romain Tamac, il affichait vraiment à la Coupe du Monde des moins de 20 vouloir gagner le titre. Ils ont un côté très américain, comme un peu la culture
comme Mbappé,
un peu NBA,
quoi, au foot, voilà.
Comme la culture NBA. Il y a l'an passé, les jeunes Toulousains et même du coup leur président affichaient aux grandes dames du Gomolan Manager leur volonté de faire le doublé. Alors des fois ça peut être pris par nos générations à nous comme de la prétention d'afficher ses objectifs ou ses ambitions à l'avance. Ils sont inertes à ça, et au contraire je crois que ça leur fait du bien, au Movaca, au Marchand, au Ntamack notamment, ou au Hockey, je pense à ceux qui ils ont une autre éducation que nous, et ils affichent vraiment leurs ambitions.
Alors justement, vous êtes tous dithyrambiques là. Denis, toi tu les vois encore progresser. Il y a deux joueurs qui symbolisent cette confiance extraordinaire. Nicolas et Paul Orsi, tu les côtoies à Bordeaux. Ils ne jouent pas à leur poste en sélection. En tout cas, les deux, là, ce week-end, ne jouaient pas à leur poste en sélection. Donc, c'est impressionnant. Cameron Wauki, seconde ligne. Le jeune Moefana, il y a deux ou trois sélections, il se retrouve à l'aile, alors que normalement, il est centre. Ces deux joueurs et cette situation, Nico, illustre totalement la confiance de cette équipe et le travail de Galtier, d'ailleurs. Au passage.
Complètement. Alors, ce sont quand même des joueurs qui ont un profil polyvalent, ça c'est une certitude. Mais oui. Yoram Moefana, il a joué en 33 matchs à l'UBB, seulement 3 fois à l'aile. Alors, une fois cette saison. Ouais. Sur le premier match à Biarritz, parce qu'il y avait deux gros absents et que Christophe Urios l'a fait dépanner. Mais sinon, c'est un joueur qui joue premier centre. Cameron Wauki, c'est encore pire parce qu'en 87 matchs à l'UBB, il n'a jamais démarré en deuxième ligne. Alors, ça lui est arrivé en cours de match de bricoler Christophe Urios. Mais quand on lui pose la question, pour lui, Wauki, c'est un troisième ligne. Donc voilà, c'est, ça montre quand même toute l'innovation qu'il y a dans ce staff du 15 de France, et surtout les joueurs qui répondent présents et qui adhèrent à ce projet de jeu. Et quand on voit Moefana rentrer dans son match à l'aile où il gagne toutes ses collisions, il remporte tous ses duels, il libère des ballons propres, on se dit qu'il y a un vivier quand même assez exceptionnel, et qu'à chaque fois que le staff fait une petite innovation comme ça, ça prend, ça marche.
Oui, on parle d'innovation, et puis après on a des exemples à suivre. Regarde Itoché qui était un troisième ligne, ça reconvertit en seconde ligne. Je crois que c'est le rugby moderne aussi, c'est cette adaptation à tous les postes.
Ils sont bluffants, Denis, par exemple Moefana, il te bluffe lui.
Mais c'est un garçon que je suis depuis longtemps, qui est intéressant parce qu'il est d'une facilité incroyable, il est costaud, il doute pas, il a une confiance.
Famille de rugbyman, hein, Denis.
Oui, famille de rugbyman, absolument. Son père.
Il y aura Moefana, pour la petite histoire, son tonton. Alors son père est rugbyman, mais il est de Nouvelle-Calédonie. Son tonton jouait à Agen, et quand il avait 9-10 ans, il a suivi son tonton parce qu'il rêvait de faire du rugby. Alors au début c'était assez compliqué, son tonton jouait à Colomiers et tout ça, il a commencé à Colomiers, et puis c'est vraiment à l'UBB qu'il a commencé à exploser, qu'il a joué en équipe de France moins de 20. Mais voilà, il fait partie cette longue tradition de joueurs iliens qui sont très très forts, quoi, physiquement, et c'est un monstre.
Non, très très fort, mais surtout, moi j'en reviens à cette génération de décomplexés. On parlait d'Mtamak, Dupont, Jalibert. Voilà, c'est des garçons qui aujourd'hui ont complètement évacué cette pression qui parfois t'empêche de faire de grandes choses. Aujourd'hui, ils jouent sans complexe, comme ils jouaient en match championnat, comme s'ils jouaient dans la cour de récréation presque.
J'ai envie de parler, pardon, Jeff, de Cameron Wauki, pour aller dans le sens de Nicolas, qui est face à un paradoxe, c'est-à-dire que autant le staff du 15 de France est convaincu de son avenir.
Alors Furios,
au poste
pas du tout.
Deuxième ligne, autant que Christophe Furios, mais alors pas du tout, du tout. Il n'ose pas trop le dire publiquement, mais il n'est vraiment pas convaincu au poste de deuxième ligne. Et du coup, à l'inverse, on assiste à cette scène, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 jours, où Fabien Galtier était obligé de grandir Cameron Wauki, de le grossir. Il l'a annoncé à 2 mètres et à 115 kilos, alors qu'il suffisait de regarder maintenant. Parce que voilà, il y a ce. Et donc, le môme, c'est là où tu as raison, Denis, c'est qu'il est inerte à toute pression. Lui, il se retrouve au milieu. C'est des gens qui font attention, cette génération, ils regardent tout, ils lisent tout, donc ils voient bien le match entre guillemets entre les deux staffs, et aussi bien en troisième ligne à l'UBB que en 15 de France en deuxième ligne.
Correction pour Yoram Moefana, j'ai dit Nouvelle-Calédonie, il est de Wallis et Futuna, hein, pardon.
Ouais. Ce sera ton dernier entre les poteaux, ouais, Nico,
merci, tu passeras la compta.
Allez, Jeff, tu passeras la compta.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que Cameron Wauki prend la place de joueurs plus confirmés à ce poste là on pense à Bernard Leroux, qui est même plus en équipe de France pour le moment, qui fait des allers-retours, et Yoram Moefana qui a pris la place de Vakatawa et qui a fait oublier, faut le rappeler quand même, qui a fait oublier le forfait de Gabin Villière, qui était le meilleur joueur du tournoi pour l'équipe de France, 3 essais. Et là, on se demandait comment ça allait se passer pour lui en l'absence de Gabin Villière. Et maintenant, on se demande si Gabin Villière va récupérer sa place. Ouais, il y a un effectif de fou quand même.
Il y a une autre dimension importante, Jeff, qu'il faudra gérer pour cette équipe, c'est la ferveur qu'ils sont en train de créer autour d'eux. C'est parfois compliqué à gérer. Souvenons-nous, il y a 2 ans en Écosse, hein, où ils n'avaient pas supporté la pression.
Oui, mais ils ont travaillé sur ça.
Donc ils l'ont travaillé. Les joueurs ne veulent pas parler de grand chelem, Jeff, mais côté supporter, côté public qui suit le rugby, là on se rapproche tout doucement de la folie douce. Hein, on parle du grand chelem, il n'y a pas de souci.
Là on parle du grand chelem. Hein. C'est vrai que les supporters français étaient bouillants ce week-end à Édimbourg. On les a vus dans les rues, puis au stade à Murrayfield. Il y en avait votre 8 et 10 000, c'est ce que disait Denis qui avait fait le déplacement. Tous vraiment ravis de suivre enfin leur équipe, de faire un déplacement. Parce que le Covid, ça commence à s'estomper. Et dans le stade, on n'a entendu que tout au long du match, avec une Marseillaise en plein match, une deuxième, et qui ne saute pas, n'est pas français. Écoutez, ces moments de bonheur des Marseillaises à Murrayfield, ça fait du bien quand même. Et c'est vrai que par moment, on se serait cru au Stade de France.
On est à l'extérieur, là.
Ouais, on est à l'extérieur. C'était assez dingue. Et ça a vraiment fait chaud au cœur aux joueurs du 15 de France, et notamment Cyril Bail, on l'écoute.
C'est incroyable, et surtout, on a senti qu'on arrivait déjà à l'aéroport. Et on essaye aussi à chaque match de leur donner le maximum pour eux aussi. Et aujourd'hui, ils nous ont poussé fort. La Marseillaise a été impressionnante aussi. C'était une très belle Marseillaise, surtout que c'est à l'extérieur. Mais là, on a senti qu'on était porté aussi par notre public. Et après le tour d'honneur, on a vu qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient très contents aussi. On est très contents s'ils sont heureux ce soir.
Et c'est vrai que le tour d'honneur, à la fin du match, c'était un vrai moment de communion avec cette équipe de France. On voit que les supporters écossais sont partis assez vite du stade, même certes pour certains, avant la fin du match. Et le public français est resté dans le stade, puis est allé attendre les joueurs de l'équipe de France devant leur bus. Mais quasiment 1h30 ou 2h après, il y avait encore beaucoup, beaucoup de monde. Et là aussi, une ambiance, lorsque Antoine Dupont est passé, c'était de la folie. C'était un vrai beau moment aussi tout au long de ce match. Écoutez un petit peu. Écoutez cette ambiance à la fin, lorsque les joueurs rentrent à leur bus. 2 heures après. Hein.
C'est les Beatles.
Ouais.
Denis.
Moi, ben bon, j'ai eu la chance de vivre avec eux là, cette soirée. Donc,
ils le vivent comment ?
Il émane de cette équipe quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que quand tu vis un peu à côté d'eux, et notamment en soirée, tu comprends mieux pourquoi ça fonctionne. Pourquoi cette équipe a un supplément d'âme. Je crois que c'est une belle équipe de copains. Il n'y a pas de mecs qui sont tous ensemble. C'est une espèce de fusion et de communion dans cette équipe qui est assez étonnante.
Et quand tu les as vus, ils parlaient du Grand Chelem entre eux, justement ?
Non, pas vraiment.
Tu peux nous le dire, Denis ?
Non, mais sérieusement, non. Après, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à cette effervescence du public, je pense que c'est à double tranchant, mais aujourd'hui ils sont quand même habités par ça.
Oui.
Donc ça, pour moi c'est positif. Ça va dans un sens.
On s'est déjà habitué parce que les chiffres que donne Jeff sont impressionnants. Denis ou Jeff qui ont l'habitude de suivre le 15 de France, avant quand il y avait 5000 Français un déplacement
sur le
choix du Blin, là entre 8 et 10 000, bon, non, on va pas retenir, mais on va quand même mettre un petit tir à Fabien Galthié qui voyait même 20 000 supporters français.
C'est les lunettes, on voit double.
Voilà, c'est la marque de ses lunettes qui lui permet ça. Mais non, mais c'est incroyable. Par contre, l'engouement pour ces bleus, non, mais parce que c'est tout nouveau dans le rugby. Hein.
Le foot
a l'habitude de voir les équipes, l'OM ou le PSG.
Oui, dès que ça gagne.
Mais pour nous, au rugby, c'était les Lions britanniques, c'était les Irlandais qui étaient capables avec la marée. Là, on arrive et puis on dit ça, on passe presque comme ça rapidement. Mais 8 à 10 000 Français qui vont supporter les bleus à Édimbourg. A priori, il va y avoir aussi énormément au Pays de Galles dans 10 jours. C'est génial pour notre sport.
Et puis la période est propice. Je crois que l'après-Covid, les gens ont besoin de fêter.
Oui.
Il y a ce côté festif aussi. Puis le fait que cette équipe de France fait rêver, mais ça décuple l'envie.
Et puis on est victime, les gars, du manque de résultats depuis 2010, clairement.
Oui, l'envie de voir cette équipe de France triompher.
Ça fait 12 ans que le 15 de France n'a pas
gagné. Les gens, ils ont envie de voir les Français gagner. Voilà,
tout simplement. Tu as raison. On a été sevrés.
Le fait qu'ils gagnent, ça représente un symbole qu'on n'avait plus.
Rendez-vous compte, c'était un pré-ado de 12-13 ans, donc t'as jamais vu gagner, t'es amoureux de rugby, t'as jamais vu gagner l'équipe de France.
Enfin, pendant 10 ans, on a eu le traversé du désert.
Un petit bémol, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous me connaissez, moi je suis un grand inquiet. Il y a quand même dans cette équipe, je suis d'accord avec vous, elle dégage une force collective incroyable, on parle beaucoup du collectif, dans les collisions, ils sont énormes dans la gestion de la pression, mais on a quand même une dépendance autour du meilleur joueur du monde.
Heureusement.
Qui, moi, ouais, mais qui m'inquiète, parce que le jour où il est un peu moins bien, lui, le jour où bah, il a le droit d'être blessé une fois, hein, ça peut arriver, eh bien... Alors, Lucu, t'es un très bon joueur, mais ton équipe, elle change.
Mais moi,
je vais te répondre. C'est plus la même du tout.
Je vais te répondre là où tu as raison, c'est-à-dire que tu ne pourras pas être champion du monde sans lui.
D'accord, on est d'accord, Denis, là-dessus.
Mais c'est pas pour ça qu'on parle de dépendance. C'est que les meilleures équipes du monde ont toujours eu les meilleurs joueurs du monde.
Non, mais...
Wilkinson, oui. L'Angleterre et Wilkinson, mais... la Nouvelle-Zélande a eu Carter. À un moment donné, si tu veux être champion du monde, la meilleure équipe du monde, t'es obligé d'avoir les meilleurs joueurs du monde. C'est pas possible.
Ou Adrien a raison, et on a eu ce débat ce matin en conférence de rédaction Middle, à croire qu'il était avec nous. C'est que c'est vrai que c'est nouveau pour nous. C'est la première fois que le 15 de France, on est vraiment dépendant d'un joueur.
C'est fou.
On a l'habitude de dire, mais c'est pas grave, mais regardez les Anglais en 2003, ils avaient Wilkinson, Mais nous, on avait. C'est tout nouveau.
Oui,
c'est
mais,
tout nouveau.
Mais
il y avait jamais
une équipe.
Il y avait jamais une équipe de France. Quand il y avait Blanco, ben, il y avait aussi d'autres très grands joueurs à côté de lui. C'est là Denis pour pas le citer. Voilà, pareil du temps de Michalak. Bon, on va.
Les Néo-Zélandais sont champions du monde sans Carter, alors que meilleur joueur du monde.
Vous trouvez que contre l'Écosse, on gagne grâce à Antoine Dupont?
Mais oui,
c'est là où
moi je pense que c'est grâce à la. Moi je pense que c'est grâce à la force collective quand on les voit en défense gratter des ballons, récupérer des ballons quand on est dominé.
Denis, quand le match compte, ça relance. Et voilà, quand les Écossais y croient encore, qu'ils y mettent autant d'intensité
dans le placage,
oui, ça, mais... et il franchit quand non, ça mais compte
il
encore.
Il impulse ou il imprime une force que, évidemment, qui est entraînante. Donc on va
pas
le nier.
C'est totalement différent.
Il rassure ses partenaires, il inquiète les adversaires. On est d'accord sur tout ça. Mais là où je rejoins Nicolas, c'est que imaginons que Dupont ne joue pas contre l'Écosse, je suis pas sûr qu'on n'aurait pas gagné quand même.
Ouais. Après le
curseur, si tu le montes, si tu fais une Coupe du Monde, tu es obligé de porter l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, et évidemment que tu as besoin
de Dupont. Mais où Adrien a raison, Denis, c'est que par exemple, on a d'autres joueurs de classe mondiale, mais on a qu'un Antoine Dupont qui est le meilleur. Et derrière lui, c'est pas le grand vide, mais c'est moi. Regarde, au poste de talonneur, Marchand Movaca, ça vaut le coup. Oui. À l'ouverture, on n'arrête pas de le dire, il y a Ntamack, mais il y a Jalibert, il y en a d'autres qui sont juste à côté. À l'aile, on découvre qu'on a du réservoir. Au centre, on n'en parle pas.
En neuf, l'écart est beaucoup plus large.
Non, mais Serein, Couillou, c'est des joueurs de grande qualité.
Oui,
non,
mais bien sûr, de
dire par là, c'est que.
Non, mais là où je vous trouve dur, c'est que forcément,
oui,
si tu enlèves le facteur X, le meilleur joueur du monde à l'équipe, forcément, l'équipe de France, elle est moins forte maintenant. Vu qu'on les voit monter en puissance collectivement, moi, je suis persuadé que la France peut avoir des résultats maintenant, même avec un Antoine Dupont diminué. Bien sûr qu'on sera meilleur avec Antoine Dupont.
Mais
quand on les voit faire le.
On est d'accord, mais le bémol, c'est qu'avec lui, tu seras peut-être champion du monde. Voilà. Tu auras plus de certitude.
Tu ne seras pas champion du monde sans lui, c'est ce que tu dis, de toute façon.
Oui, voilà. Je le pense.
Faut juste rappeler quand même dans cette équipe de France qu'on a l'impression aussi qu'à part Dupont, c'est le cadre qui est important. Que vous pouvez changer un joueur par un autre quand il n'est pas là.
Exactement.
Et les résultats sont toujours les mêmes. Nico en parlait un peu. Ce qui intéresse en ce week-end, c'est la défense, le plaquage. 143 plaquages pour l'équipe de France contre 57. C'est vous dire si parfois on n'a pas eu le ballon, on était dépossédé du ballon et que l'équipe de France, elle ne s'affole pas. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Et s'il y a un joueur qui sort, un autre qui prend la place qui est tout aussi bon, c'est ça qui est bien.
Je parlais de ça justement, c'est bien que tu en parles, avec l'équipe d'Irlande. L'équipe d'Irlande, je dis chaque fois, chaque joueur a sa partition à jouer. Et il la joue parfaitement. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça nous arrive à nous. Enfin, mais grâce au staff, grâce à Fabien, grâce à cette analyse qu'ils ont mis, enfin, cette stratégie qu'ils ont mise en place, à Sean Edwards qui fait un travail extraordinaire à la défense, à Thibaut Giroud qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui est le préparateur physique,
de la performance,
mais qui lui, moi j'ai parlé avec lui samedi soir. Tu les écoutes, ils sont habités. C'est-à-dire que les mecs, à chaque poste, même, c'est pas les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs, ils savent exactement ce qu'ils font, où ils vont. Voilà, je pense qu'il y a quand même une révolution à l'intérieur de cette équipe de France qui me fait dire que bon, elle a raison sur tout.
Il reste deux matchs pour rêver d'un grand chelem. Le premier, c'est pas une partie de plaisir, c'est à Cardiff, le 11 mars. Au Principality Stadium devant 75 000 Gallois survoltés.
Le Millennium, le Millennium.
On dit Millennium,
ouais.
Allez, on dit Millennium dans Entre les Poteaux.
Millennium.
Galles-France. Nico, tu as commenté cette année des matchs du Pays de Galles, Nicolas Paul Orsi. Des Gallois,
oui.
Alors, on a l'impression moins fort cette année, mais tout de même valeureux. 23-19, hein, simplement, la défaite en Angleterre.
Mené 17-0.
Hein. Voilà, non mais ils sont pas brillants, ils sont moins brillants que les années précédentes, mais ils sont là, Nico, les Gallois.
Oui, alors ils ont pris 29-7 en ouverture contre l'Irlande. Ouais. Jeff le disait, menait quand même 17-0 à la 43e en Angleterre. Par contre, c'est vrai que derrière, ils sont pas loin de renverser les Anglais parce qu'ils marquent un essai à la 79e et dans les dernières minutes, ils ont 80 mètres à remonter et ils vont vraiment, vraiment pousser les Anglais à la faute pour finalement venir mourir à 4 petits points. Après, c'est une équipe qui est quand même impactée. Hein. Le Pays de Galles de cette année reste privé de nombreux cadres. Alouin Jones, George North, Ken Owens, Justin Tipuric, ils ont rappelé pour ce match contre l'Angleterre Faletao. Ça faisait un an qu'il n'avait pas joué avec le Pays de Galles parce qu'il sortait d'une grosse blessure à la cheville, indisponible 7 mois. Donc voilà, c'est une équipe qui est un peu en fin de cycle avec un Dan Biggar qui se rapproche des 100 sélections avec le Pays de Galles. Voilà, c'est plus le Pays de Galles de l'année dernière, on a l'impression. On en parlait un peu avec Jeff hier. Enfin... c'est plus le Pays de Galles qui a gagné le tournoi. Mais tout de même, ça va être difficile
d'aller jouer. Le oui, mais enfin, faut y aller quoi.
Moi, j'ai regardé la seconde mi-temps, enfin la première qui était un peu soporifique, mais la seconde mi-temps, les Gallois ont fait un match incroyable. Ils auraient même pu aller chercher cette victoire au forceps. Mais voilà, on sait à quoi s'attendre. On sait que cette équipe du Pays de Galles, quand elle joue comme la seconde mi-temps qu'elle a joué contre l'Angleterre, ressemble fortement à l'équipe d'Irlande, à ce jeu un peu clinique, un peu stéréotypé, avec quand même des joueurs comme Tompkins, je ne sais plus son nom, le 3/4 centre qui m'a fait grosse impression.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ils ont des joueurs quand même de valeur, mais moi je pense qu'on va les faire déjouer, on va les tuer par rapport à notre force à nous, qui est cette force défensive intraitable.
Après, ce qui est intéressant pour l'équipe de France, c'est qu'elle reste sur trois succès, c'est anecdotique. La dernière défaite contre le Pays de Galles, c'est malheureusement le quart de finale de Coupe du Monde, et que cette équipe de France s'est déjà imposée au Millennium dans un match qui avait été très important pour la construction de cette équipe. C'était il y a 2 ans, l'équipe de France, on se disait, elle va passer un test dans une ambiance particulière, magnifique, avec le Millennium, et cette équipe de France, elle n'avait pas déjoué. Là, sur le papier, ils sont encore favoris, clairement, pour moi. Il faut le dire, contre cette équipe du Pays de Galles, s'ils continuent sur leur lancée, ils ne seront pas menacés. Moi, je les vois largement supérieurs aux Gallois.
Ce Galles-France, on va en parler en long, en large et en travers la semaine prochaine, dans la prochaine édition d'Entre les Poteaux, toute la semaine dans le Super Moscato
c'est
Show sur RMC. C'était bon, Denis.
Ça passe plus vite quand c'est Adrien. C'est quand même mieux.
La semaine prochaine, le taulier d'Entre les Poteaux,
qui revient,
Christophe Cessieux, sera de retour. Il sera sorti de son isolement.
C'est pas sûr, on sait jamais.
Christophe
va faire un vote. Non, mais tu sais, c'est comme Woki, il s'est imposé en seconde ligne. Toi, tu peux t'imposer aussi.
Ouais, mais j'ai pas le physique de seconde ligne. pas encore. Merci Nicolas, merci Jeff, merci Denis.
Salut,
merci Pierre-Laurent Gou du Midi Olympique. Et à la semaine prochaine, Entre les Poteaux. Salut.